Vous écoutez
RMC.
Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Michel-Édouard Leclerc.
Bonjour Apolline.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le président du comité stratégique des centres Leclerc. Alors il y a de très nombreuses questions à vous poser, notamment sur les conséquences de la canicule sur les prix, sur la hausse potentielle des prix, sur l'agriculture. Mais d'abord, est-ce que vous avez du stock? Est-ce que les Français continuent à venir dans vos magasins pour demander des clims, des ventilateurs, de quoi se rafraîchir?
Non, moins maintenant. Je pense que la plupart des personnes sont équipées. Faut pas oublier que les écoles sont fermées, que beaucoup de gens sont déjà partis en vacances. Je vous arrive en courant de ma Bretagne, où finalement il fait bon. Une petite canicule, ça nous
c'est
fait du bien.
C'est le moment de faire votre pub.
Oui. L'Aune, c'est pas, l'eau reste froide. Mais c'est the place to be.
OK.
C'est plutôt chez les agriculteurs qu'il y a des problèmes. Parce qu'ils en parlent peu, parce que pudiquement c'est pas facile d'en parler, mais il y a beaucoup de mortalité dans les élevages de volailles notamment.
On va y venir sur les sur les élevages, mais c'est vrai que on a vu ces scènes, vous les avez vues comme nous, ces scènes où il y a des Français qui se sont rués, notamment dans les magasins Lidl qui avaient annoncé une promo. Je recevais ce matin sur RMC Delphine Bateau, l'ancienne ministre de l'écologie, qui a décidé carrément de saisir la DGCCRF contre Lidl, estimant que c'était une fausse promo, que c'était en fait qu'ils annonçaient faire une promo sur les clims qui en réalité étaient vendus encore moins cher un peu plus tôt. D'abord sur le fond, le fait que les gens se ruent sur les clims, c'est la faute de Lidl? C'est Lidl qui a organisé ça?
Non, je pense que peut-être ils ont provoqué cette ils étaient pas chers, hein, c'est clair, mais ils arrivaient un peu après l'équipement général. Il y a beaucoup de gens qui venaient acheter pour revendre aussi.
Ça a été le cas, visiblement. Il y en a qui se sont retrouvés de ces climatiseurs.
On a souvent des mouvements
très vite
comme ça.
En revente.
C'est les mouvements du dernier coup, quoi. Et donc, je pense pas que Lidl ait déconné. Je pense que tout simplement, on entend aussi dans les médias qu'il va encore y avoir une canicule encore pendant 10 jours. En fait, personne n'en sait trop rien. Mais tout le monde
a déjà une vigilance orange sur 17 départements aujourd'hui.
Je vous rappelle quand même que les écoles sont fermées.
Êtes moins inquiet. Je vous sens moins inquiet. Mais cela dit, Michel-Édouard Leclerc, je reste sur cette histoire de Lidl. 200 000 climatiseurs qui ont été vendus donc à moins de 200 euros et des scènes, effectivement, de ruées sur ces clims. Qu'est-ce que ça dit de la consommation aujourd'hui?
Ça dit plutôt de l'anxiété, le fait de pas avoir, de pas être prêt. Et d'ailleurs, ce que ressentent les consommateurs, il faut en tirer les conclusions pour nous, chefs d'entreprise, entrepreneurs. C'est très facile de faire le procès à l'État de pas avoir prévu. Enfin, bon, l'État n'est pas maître de la météo. Mais même nous, entrepreneurs, ça veut dire que Jean Covici, il a quand même raison. Tout a déjà été dit. On va avoir ça tous les 2 ou 3 ans, alternant avec beaucoup de pluie. Donc, il faut aujourd'hui qu'on adapte nos entreprises, notre offre.
C'est le cas chez Leclerc.
C'est déjà une conviction personnelle. Moi, je suis très.
Je me souviens que vous aviez annoncé ici la fin des tickets,
la fin des prospectus, la suppression des sacs plastiques. Ça a été notre combat. Je pense que Jean Covici le dit quelquefois de manière, vous le recevez souvent de manière un peu professorale, mais je crois que là, tout le monde comprend que quand ça arrive quoi. Et donc c'est trop tard. Donc nous, on va investir près de 2,3 milliards d'ici 2030. Dans la lutte anti-gaspi, dans des nouvelles machines de réfrigération, dans la géothermie, dans la pose de panneaux solaires. On veut devenir autonome sur le plan, ou quasi autonome sur le plan de la production d'électricité, faire une électricité propre. On va lancer la bataille. Là, on lance la bataille à partir de cette semaine de l'électricité la moins chère pour les recharges électriques. On croit à l'électrique. On croit aussi aux alternatives. Je vais vous quitter juste après pour aller dans une grande coopérative de l'Est signer un contrat éthanol pour faire du E85, pour rajouter aussi de l'alcool à partir de l'agriculture décarbonée pour mettre dans le E10 et le E5 là. Et donc vous voyez, c'est on part quoi, donc, tout azimut là-dessus. Et ça, c'est à la fois
il y a une responsabilité des entreprises.
Il y a une responsabilité des entreprises. Nous avons un bilan carbone qui est de l'ordre de 70 millions de tonnes d'émissions carbone. Il faut diminuer de moitié ces émissions de carbone d'ici 2035. Alors pour que les gens, pour que le public, ce soit aussi un critère de choix d'acheter des produits qui sont pas trop carbonés, qui n'émettent pas trop de carbone, on l'affiche partout. On l'affiche sur nos textiles aujourd'hui, à marque de distributeur, avec toutes les conditions de production d'environnement. On affiche sur toutes les marques de distributeurs, marque repère, enfin pour nous, toutes les marques de distributeurs. Je vais pas faire de la publicité. Et puis c'est un même sur les voyages. Vous voyez, on est devenu un gros voyagiste français. Vous allez pouvoir calculer l'émission de carbone de votre voyage en allant dans votre hôtel, dans vos déplacements. Alors au début, c'est aride, mais ça va permettre d'étalonner le suivi de la promesse.
Et vous pensez qu'ensuite, les Français seront responsables et calculeront et se diront... Parce que vous citiez Jancovici, mais Jean-Marc Jancovici, lui, il va jusqu'à dire qu'il faut renoncer à l'avion ou alors se dire, on fait, je sais pas, 4 voyages en avion par an, ou par vie même.
Ça, c'est son choix personnel.
C'est ce qu'il espère pour l'humanité.
Ouais, moi j'ai des collaborateurs qui m'empêchent de louer des avions, qui me tiennent mon bilan carbone. Je vais aller sur le Tour de France, je peux vous dire que d'abord Stellantis nous a prêté des voitures électriques. Dans ma propre vie, même à 74 ans, je vais essayer de me mettre comme un adolescent d'aujourd'hui qui va vivre demain une vie décarbonée.
Donc s'adapter. Ouais. Je vous pose aussi la question des prix, parce que si j'en reviens toujours à cette fameuse scène de cohue autour des clims pas chers de Lidl, vous vous présentez régulièrement, Michel-Édouard Leclerc, comme l'homme du pouvoir d'achat des Français. Est-ce que ce que l'on a vu là est aussi le symptôme du fait que ces canicules ont révélé à nouveau des vraies inégalités des Français et que il y a des choses qui restent des produits qui pendant longtemps ont été des produits qu'on a presque empêcher les plus modestes d'obtenir.
Oui, mais c'est quand même, vous le voyez bien, quand même, dans la vie quotidienne, il y a des gens qui rament, il y a plus d'un million de Français, et ça ramène.
En fait, je trouve frappant le décalage entre ceux qui m'appellent, notamment au 32-16 sur RMC, pour dire que c'est vital pour eux, et que donc ils se jettent sur, effectivement, la clim, et puis les politiques qui continuent à dire, comme le maire de Paris hier, climatiser son appartement, c'est réchauffer celui de son voisin. On vous a pas empêché, vous, de mettre la clim dans des énormes espaces de supermarchés. Ouais. Pourquoi on empêcherait les particuliers ?
C'est le problème du décalage. Sans vouloir faire du populisme, on dirait qu'il y a des politiques qui font pas leurs courses ou qui vivent pas comme les conditions des gens. J'exagère parce qu'il y a des belles personnalités, c'est pas le sujet. Mais vous voyez par exemple là, on a
votre confrère d'ailleurs, Thierry Cotillard, dit les politiques sont aujourd'hui complètement déconnectés.
Ben oui, et Dominique Schelcher dit ça aussi de Coopérative U. J'ai réussi à dire Coopérative U et pas Système U. Vous voyez par exemple, le prix des carburants là, Total ne fait plus son plafond. On lui a mis 12 centimes d'écart là. Ben, les gens se précipitent. Ils viennent chercher à 1 euro près le carburant moins cher. Là, aujourd'hui, on a des stations qui sont en train de passer en dessous de la barre des 1,80. Ça descend pas assez vite. Mais
pourquoi ça bloque?
Vu d'un homme politique, vu du Parlement, ils comprennent pas. On a eu une commission d'enquête parlementaire délirante, infantile, en fait, contre les gens qui vendaient moins cher. Mais regardez le succès de l'opération de Macron pour les. C'est fini la fac, là. Mais les déjeuners à 1 franc, à 1 euro. Dans les crous, dans les restaurants. Ils se rendent pas compte qu'il y a tout un public dont le salaire médian est de 2000 euros par mois, qui en ont marre des grands discours sur les retraites ou sur qu'ils toucheront pas ou sur la gestion des finances publiques sur lesquelles ils n'ont pas de prise. Et donc, c'est au sous le sous qu'il faut leur répondre.
Justement, dans les rayons, d'abord à la pompe, je vous repose quand même la question, pourquoi ça bloque? C'est-à-dire que là, on a quand même l'impression que les prix stagnent depuis une bonne dizaine de jours.
Non, ça descend quand même, ça a reperdu 30 centimes par rapport au point haut du conflit. Il y a des bateaux qui passent d'Hormuz, il y a des chaînes de camions.
Est-ce qu'on peut espérer, avant la fin de l'été, retrouver les prix d'avant la guerre?
Je ne me risque plus à faire la pitié. Un jour, vous m'avez dit la boule de cristal. Je n'ai pas encore cette qualité-là, mais ça descend quand même. Mais on est à la merci du moindre coup de gueule dans le détroit d'Hormuz, quoi. Et donc, comme ils n'ont pas l'air très rationnels, ni ni très raisonnable. Je préfère ne pas m'avancer. Mais aujourd'hui, par exemple, on est, je crois que c'est, voilà, j'ai là, on est à 1,82 sur le gasoil Leclerc, suivi de Système U et d'Auchan. Et sur le E10, vous voyez, Leclerc, on est à 1,80. Et derrière, il y a Intermarché, Cora. Et Total Energy, c'est 12 centimes derrière, quoi.
Hein, donc, de plus, en réalité.
Ouais, plus. Ouais, ouais, ouais. Donc, on a réussi à,
ça veut dire que Total fait pas le boulot.
Ça veut dire que Total, il a fait le boulot pendant un mois, quoi. Ben il peut, il avait cagnoté quand même pendant 3 ans.
C'était bien le moins. Vous estimez.
C'était bien le moins qu'il pouvait faire. Oui.
La question du prix des fruits, des légumes, des produits, de la viande, de la volaille, eux aussi subissent évidemment les conséquences de l'extrême chaleur.
Pas encore. C'est-à-dire que c'est probablement à venir. Comme je vous le disais tout à l'heure. Une semaine de chaleur dans l'agriculture française, on sait tenir dans la vigne et tout ça. C'est pour le après. Si ça dure trop longtemps, évidemment, il y aura des problèmes. Alors, il y a des problèmes de tenue de qualité de fruits, notamment les fruits rouges, quand il y a des chaleurs comme ça. Ça mûrit pas, hein, ça pourrit. Donc, il y a tous les professionnels sont sur la chaîne de froid. Donc, ça veut dire qu'il y a des coûts d'énergie. Il y a des coûts de transport. Par exemple, pour la collecte de lait. Alors, j'ai lu mon Ouest France dans le train hier soir. Ils ont énormément de problèmes. Les vaches aussi ont des rendements de laitiers moindres. Donc, effectivement, il peut y avoir soit de l'inflation, soit des ruptures dans les.
Vous n'en avez pas pour l'instant.
Pour le moment, non. Faut pas crier au loup. Pour le moment, c'est des problèmes qui sont à venir. Par contre, je voudrais insister là-dessus. Vis-à-vis de la canicule, on n'est pas égaux. Et vis-à-vis de la crise de l'énergie, on n'est pas égaux en Europe. Hein, vous entendez pas trop les pays de l'Europe du Nord qui, eux, vont chercher du pétrole en mer du Nord avec des dériques, avec des... Et donc, moi, je crois très important, aujourd'hui, la loi Egalim, la loi qui protège, qui m'empêche de négocier et qui empêche les distributeurs de négocier la matière première agricole, je voudrais aujourd'hui qu'elle soit, d'une part, élargie aussi bien aux industriels, à ceux qui exportent vers l'Europe, à la restauration et aux cantines, parce que ça me paraît assez débile de faire appliquer une loi de protection de rémunération des agriculteurs que sur la seule distribution qui n'est pas le premier client de l'agriculture.
C'est-à-dire, Michel Édouard Leclerc, ouais. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Est-ce que ça veut dire que vous considérez qu'en fait une partie de, vous dites les cantines, la restauration, en fait ne joue pas le jeu aujourd'hui?
Absolument, les cantines c'est à peine 30% de produits français dans leurs appels d'offres, et si vous allez à Rungis, c'est pas du tout appliqué non plus, et vous savez bien que les...
C'est-à-dire quoi? Vous demandez à Rungis, par exemple, précisément
ouais.
Combien ils ont négocié la matière première agricole?
Pour les agriculteurs, défendant la ferme France, et quoi qu'on dise de la grande distribution, je demande, mais je pense que mes collègues demandent la même chose à la Fédération du commerce et de la distribution, que la loi qui nous empêche de renégocier, y compris à la hausse, la matière première agricole, soit appliquée à tout l'ensemble des acheteurs. C'est pas le cas.
Il y a quoi? Il y a une forme d'hypocrisie?
Oui, il y a une forme d'hypocrisie, de recherche de bouc émissaire. Il y a une deuxième chose.
Vous fait porter le chapeau, quoi.
Ouais, il y a une deuxième chose. Et ça, c'est vraiment très important aujourd'hui, alors que les marchés sont libres, notamment en Europe. Les indications d'origine. Mmh. Alors, nous, distributeurs, aujourd'hui, nous menons le combat, et Leclerc, on met l'origine du produit. C'est Olivia Grégoire qui avait lancé l'idée Origine Info.
Quand elle était ministre de la Consommation.
Et aujourd'hui, on met de l'origine des 4 principaux ingrédients, même d'un plat transformé, composé, etc. Je demande à ce que les industriels appliquent ça, c'est-à-dire que eux aussi, sur tous les produits dont ils nous demandent de ne pas négocier les produits agricoles, la part agricole, qui mettent les indications d'origine.
Et vous pensez à quoi ? C'est-à-dire, je vais prendre l'exemple, je sais pas, d'une pizza Buitoni ou de sais quoi. Est-ce que vous demandez dans ces cas-là à Buitoni, par exemple, de vous dire exactement d'où vient le jambon, d'où vient le morceau de champignon, d'où viennent les tomates de la sauce tomate et d'où
absolument.
Vient le blé ?
Absolument, parce que vous voyez. Moi, je veux bien ne pas avoir à négocier le prix du cochon breton, mais si c'est du cochon espagnol, je vois pas pourquoi je ferais payer le consommateur français plus cher pour le cochon espagnol.
En fait, la loi Egalim, elle touche les produits français. Donc, ce que vous dites, c'est que dans des produits, y compris de marques françaises ou étrangères, ils doivent eux aussi être transparents sur l'origine agricole.
Oui.
De tout ce qui rentre dans la composition
autant,
de leur plat.
Autant je suis pour défendre la ferme France, voire rémunérer plus la ferme France, mais si les industriels sont exonérés de dire d'où vient leur cochon, leur lapin, leur poulet, etc., à ce moment-là, on demande aux consommateurs de payer plus cher. des agriculteurs étrangers. Et c'est quand même pas normal. Et ça, c'est quand même une hypocrisie.
Mais quelles seraient les conséquences, pardon, mais tirons le fil jusqu'au bout, Michel-Edouard Leclerc. Vous dites, voilà, moi, je veux qu'ils puissent dire. Et alors, à ce moment-là, on va se rendre compte que, je sais pas, moi, que sur la Regina de je ne sais quelle marque, bah, en fait, le jambon, il est espagnol ou polonais. Quelle sera la conséquence? Qu'est-ce que vous vous direz, Michel-Edouard Leclerc,
je pense
quand vous
que
achetez la
jeune génération, et même aujourd'hui, ma génération.
Est-ce que la conséquence
attention.
Sera pour le consommateur ou est-ce que la conséquence sera pour vous dans la négo des prix?
La conséquence sera pour l'agriculteur. L'agriculteur français doit pouvoir bénéficier d'une exception agricole comme il y a une exception culturelle. Il faut qu'on puisse soutenir la ferme France. Et la ferme France, c'est pas simplement le grand distributeur qui doit être obligé de la soutenir. Ça doit être aussi la restauration, ça doit être les cantines. Et je suis persuadé en plus que les consommateurs vont regarder ça. De la même manière, ils vont regarder. Il y a le débat sur la réintroduction des néonicotinoïdes dans les betteraves, pour le sucre et tout ça. De la même manière, moi je pense aussi, c'est une troisième idée forte, c'est qu'il faut développer, généraliser le Nutri-Score. Nous voulons savoir ce qu'il y a dans les produits. On veut connaître l'origine, on veut savoir combien de carbone ça crame.
Et on veut savoir la qualité.
Et on veut savoir la qualité. Et donc je vais signer la pétition, à titre personnel, je vais signer la pétition du Dr Herberg, qui est le
qui
promoteur.
L'obligation en fait du Nutri-Score, et que ce ne soit pas uniquement les marques.
Et je pense que tous les distributeurs pourront faire de même. En tout cas, j'inviterai tous les consommateurs à signer. Parce que aujourd'hui, c'est quand même un effort, une pédagogie. C'est pas idéal. On peut discuter certains points, des critères, mais c'est le début d'une pédagogie où tout le monde va regarder ce qu'il mange, ce qu'il achète. Et je suis persuadé, vous voyez, un peu comme les jeunes aujourd'hui qui achètent des vins pour regarder si c'est sans sulfite ou avec sulfite. Je pense que ça, c'est tout ce qui se passe sur le climat, la fatigue, le corps, tout ce qu'on discute sur la souveraineté alimentaire, on doit faire ça.
Michel-Edouard Leclerc, c'est vrai qu'Olivier Faure vous a proposé de participer à la primaire de la gauche?
Oui, c'était dans des conditions plus sympathiques et plus drôles que telles que relayées. Oui.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était une boutade?
Non, je pense qu'ils veulent savoir si c'est du lard ou du cochon. Mmh. Le fait que je sois coté à la bourse des présidentiables. Et donc, moi, j'en profite du coup. J'ai rien demandé, hein. Vous me connaissez un peu. Mais par contre, je me aperçois que, j'intéresse non pas parce que justement je représente 18 millions de clients et un réseau national, ça on me pose aucune question comme vous sur ce qui se mange, ce qu'il faudrait faire, mais par contre quand je suis cotable et donc concurrentiel
mais
sur
mais vous
le...
avez envie d'y aller ou pas?
Non, je suis beaucoup
vous
plus...
Vous n'avez pas du tout envie d'y aller? Non, vous avez un peu envie d'y aller ou non, vous non. pourriez avoir envie d'y aller?
Je pourrais avoir envie d'y aller voilà. parce que je trouve que, en fait, les sujets essentiels des Français, les sujets sur le pouvoir d'achat, sur les salaires, la réduction des écarts de salaire entre le brut et le net, tout ça, c'est le mode de vie des Français, je trouve qu'il n'y a pas de projet collectif.
Vous seriez de droite ou de gauche?
Je pense que je serais progressiste, humaniste. Je sais pas quoi. Je voudrais un projet collectif. Avant de dire la différence, avant de dire chacun, je veux faire mes 12% pour me retrouver face au Front National, je pense qu'il faut faire 51% des Français d'accord sur un projet collectif.
Et vous déciderez quand?
Oh, mais vous m'y aiderez?
Non, je vous écouterai, je vous poserai des questions, effectivement, et donc on verra bien si à un moment vous lâchez le morceau. Si vous dites si c'est du lard ou du cochon.
Ouais, pour le moment, regardez tout ce que je suis en train de dire.
En tout cas, tant que vous acceptez de venir répondre aux questions, je pourrai la poser. Et est-ce qu'à un moment, vous allez vous planquer?
Non, jamais. Bon. Je me plante pas. Non, je suis un mode combattant, action. Je vous l'ai déjà dit, philosophie
Teddy Riner. Mais je sais que, par exemple, il y en a certains qui disent à gauche, bah, il faut attendre l'automne, c'est à l'automne que ça va se décanter. À droite, Jean-François Copé, qui était mon invité ici même, dit, bon, bah, c'est pas avant l'été, mais c'est au retour de l'été.
Je pense exactement comme mes autres collègues distributeurs qui sont sur le terrain, et notamment Dominique Schelcher, je crois que c'était chez vous qu'il le disait. Il y a des sujets très angoissant pour la société française. Personne n'y répond. Pour le moment, il y a des chefs de paroisse, chacun dit c'est moi. On parle d'alliance et tout ça, mais il n'y a pas de contenu.
Et donc, si vous estimez que personne ne répond à ces questions-là, vous irez.
Et s'il n'y a personne pour répondre à ces questions-là, il faudra bien y répondre. Alors, je ne sais pas encore quelle est la manière la plus efficace par laquelle on répondra.
Mais je vous reposerai la question, vous pouvez compter sur moi. Merci Michel-Edouard Leclerc d'avoir répondu à mes questions. Il est 8h47.